France Inter.
Aujourd'hui, Chauvet dans la grotte des origines. Raconté par
Catherine Ferrier, géoarchéologue à l'Université de Bordeaux.
Et Stéphane Jaillet, géomorphologue à l'Université de Savoie, au laboratoire Editem.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En 1860, le paléontologue Édouard Lartet, déjà renommé pour ses travaux sur les âges préhistoriques, explore un abri sous roche à Aurignac, un petit village du sud-ouest de la France. Cette exploration est née d'une découverte accidentelle survenue 8 ans plus tôt lorsque Jean-Baptiste Bonnemaison, un ouvrier agricole, tombe sur des ossements en creusant un terrier de lapin. Intrigué par ces trouvailles, Lartet se rend sur le site pour entreprendre des fouilles plus systématiques. Ce qu'il découvre dans l'abri sous roche dépasse toutes les attentes. Il met au jour un ensemble riche et varié de matériaux, des silex finement taillés, des pointes de sagaies en bois de renne et les restes d'animaux tels que le grand ours et la hyène des cavernes, le mammouth et le rhinocéros laineux. Mais ça n'est pas tout. Certains de ces ossements portent des marques de travail humain, signe indéniable d'une présence et d'une activité antérieure à tout ce qui était connu jusqu'alors. Grâce à ces fouilles, le terme aurignacien est forgé pour décrire cette culture du paléolithique supérieur, car caractérisé par une suite d'innovations techniques et artistiques. C'est dans cette période que l'humain moderne, Homo sapiens, émerge clairement, marquant un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, en développant non seulement de nouvelles méthodes de taille des pierres et des os, mais aussi une ère d'expression artistique, comme en témoignent les œuvres d'art retrouvées dans des sites comme la grotte Chauvet. Arrivés en Europe il y a plus de 40 000 ans, les Aurignaciens ont cohabité et interagi avec les Néandertaliens, en particulier dans le sud-ouest de l'Europe. Une période de transition où deux humanités, chacune avec ses propres adaptations et innovations culturelles, ont partagé le même paysage continental. La grotte Chauvet en Ardèche, découverte en 1994, est l'un des témoins les plus éloquents de l'apogée artistique de cette culture. Les peintures et gravures qu'elle contient, vieilles de plus de 30 000 ans, attestent non seulement de la maîtrise technique et artistique des Aurignaciens, mais aussi de leur profonde connexion spirituelle et émotionnelle avec leur monde. Les découvertes d'Aurignac et de la grotte Chauvet nous rappellent que bien avant l'écriture ou les grandes civilisations, l'esprit humain explorait déjà les grandes questions de la vie, de la mort et du cosmos. Et c'est cette histoire, celle de Chauvet, que nous allons vous raconter.
Le 18 et 24 décembre, un courant d'air attire l'attention d'une mission de prospection du service des Antiquités. C'est la découverte d'un trésor préhistorique. Fait rarissime, les hommes préhistoriques de l'Ardèche ont peint des animaux très peu représentés dans les grottes préhistoriques connues. Des rhinocéros laineux, des félins, beaucoup d'ours et même une représentation de hibou. En tout, plus de 300 représentations d'animaux.
Les informations sur France 2 à l'époque, donc en 1995. Catherine Ferrier et Stéphane Jaillet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. De quoi s'occupe d'abord exactement une géoarchéologue et un géomorphologue, s'il vous plaît?
Alors, la géoarchéologie, en fait, c'est un terme qui est constitué par deux mots. La géologie, donc c'est le domaine des géosciences, et l'archéologie. Donc la géoarchéologie, c'est toutes les techniques, les concepts, les outils qui relève des géosciences, mais au service de questionnements d'ordre archéologique pour apporter des réponses à ces questionnements.
Et le géomorphologue ?
Alors le géomorphologue s'intéresse aux formes du relief, les formes extérieures, hein, le paysage, que ce soit le creusement d'une vallée, d'une gorge, et les formes souterraines, évidemment, le creusement d'une grotte. Et donc les deux sont assez complémentaires, puisque le géomorphologue va plutôt s'intéresser au vide, au creusement, et dans lequel des dépôts vont ensuite venir se déposer.
Et on pourra découvrir l'objet de vos travaux ce soir dans un documentaire de Guy Padovani, Grotte Chauvet, Voyage aux origines, auquel vous avez participé et qui sera diffusé sur France 5 à 21h. Vous faites donc partie des scientifiques chanceux qui ont pu descendre dans cette grotte fermée au public depuis sa découverte en 1994. Pourquoi d'ailleurs, Catherine Ferrier, est-elle fermée cette grotte exactement ?
Elle est fermée parce qu'il faut la conserver. Elle est dans un état de, elle nous est parvenue dans un état de conservation exceptionnel. Et il faut qu'elle reste dans cet état de conservation exceptionnel, ce qui n'est pas compatible avec une ouverture au public. On considère aujourd'hui qu'il est préférable de réserver l'accès à la cavité à la fois aux équipes de conservation, aux équipes scientifiques qui l'étudient, et de transmettre toutes les connaissances que l'on peut avoir sur ces sites exceptionnels au public via des répliques que l'on a à Chauvet, Lascaux, Cosquer, et puis par toutes les ce que l'on fait aujourd'hui, des émissions, des films, etc.
Donc ça a été une chance, Stéphane Jaillet, pour cette grotte finalement d'avoir été fermée dès le début de sa découverte.
Alors elle a été fermée dès le début de sa découverte, dès les premières interventions à la fois des inventeurs qui ont découvert la grotte et qui ont eu les bons gestes, et puis de l'État qui s'en est saisi et qui a fait des choix qui étaient les bons. Elle était aussi fermée naturellement. Elle était fermée naturellement par un écroulement. Et ça a très très largement participé à sa conservation, puisque aucun animal ne pouvait rentrer dans la grotte avant qu'un homme, en 1994, finisse par y aller.
Un autre animal.
Donc. Un autre animal.
On peut d'ailleurs citer le nom des trois découvreurs, puisque c'est le terme employé, les trois inventeurs exactement. Mmh. Eliette Brunel, Christian Hiller et donc Jean-Marie Chauvet qui a donné son nom à la grotte, parce qu'il a beaucoup insisté pour justement que ses camarades le suivent, pour essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous qui avez eu la chance justement d'y pénétrer à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous avez ressenti, Catherine Ferrier, la première fois que vous êtes entrée dans la grotte Chauvet?
En fait, l'instant dont je me souviens le plus précisément, c'est quand j'étais avec Philippe Morel, qui malheureusement est décédé, mais qui était dans les premières années de l'étude, et qui m'avait dit « Bon, écoute, on va aller ensemble, tous les deux, dans la galerie du fond. » À l'époque, il n'y avait pas les passerelles, donc c'était pas très facile d'y aller, parce qu'il y a des ressauts, il faut être très prudent, il fallait être très vigilant, mais il m'avait proposé. Et face à ce panneau, bon, qui est extrêmement impressionnant, eh bien, on sait qu'il y a, vous savez qu'il y a des bisons qui sont représentés de trois quarts. Et en fait, ils vous regardent. Ils vous regardent. Donc, on croise le regard de ces animaux. Et pour moi, c'était intentionnel chez la personne qui a dessiné. C'est-à-dire qu'en croisant le regard de l'animal, je croisais le regard de la personne qui avait fait ce dessin et qui s'adressait à moi avec un message que je n'arrivais pas à décrypter.
Et ce regard, vous ne l'avez jamais oublié,
non.
Alors
ouais. Non.
Et vous, Stéphane Jaillet?
Alors, moi, j'ai eu la chance d'y aller avec mes collègues géomorphologues du laboratoire, il y a plus de 20 ans, Jean-Jacques Delannoy et Yves Perrette. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué dès le début, c'est l'état de conservation des sols. Je fais beaucoup de spéléo, donc j'ai l'habitude de fréquenter des cavités. Et là, on a le sentiment de parcourir une grotte qui n'a jamais été parcourue depuis qu'elle est scellée. Il y a un état de conservation des sols, un état de conservation des ossements disséminés. Il y a un nappage de calcite qui est magnifique, qui crée une ambiance lumineuse extraordinaire. Et cet état-là, tout brille, tout est beau. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, plus que les peintures. Parce que les peintures, quelque part, on en avait mangé beaucoup à travers des livres et des images, mais les sols, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Ouais, ça, c'est original quand même comme réponse, parce qu'on parle toujours des peintures d'habitude avec la découverte de la grotte. On va d'ailleurs écouter l'un de ses inventeurs, découvreur, donc Jean-Marie Chauvet, c'était en 1995.
L'impression sur le moment est très vive, mais l'ampleur dépasse le bonheur qu'on peut avoir. On réalise après, une semaine après, que c'est vraiment important. Et puis c'est vraiment une découverte qu'on ne peut pas espérer dans une vie. Quand ça vous arrive, c'est indescriptible.
Jean-Marie Chauvet, donc au micro de France 3 Lyon en 1995. Derrière ces falaises des gorges de l'Ardèche, Stéphane Jaillet, est-ce qu'il se cache beaucoup de grottes?
Oui, le territoire sud-ardéchois, le Bas-Vivarais ou les gorges de l'Ardèche sont un territoire extrêmement riche en grandes grottes.
On sait combien il y en a exactement ou pas?
Quelques centaines, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est surtout au-delà du nombre de grottes, c'est des développements spéléologiques qui peuvent être considérables. Le plus grand réseau, c'est Saint-Marcel d'Ardèche, qui fait plus de 50 km de réseau souterrain, connu, connecté. La grotte Chauvet, je ne dirais pas que c'est une petite grotte, mais elle fait moins d'un kilomètre d'extension. Elle est exceptionnelle, mais ce n'est pas la plus grande.
Ouais. Quelle est son histoire à cette grotte, en fait, d'un point de vue géologique? Parce que c'est ça qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui dans cette émission, et puis également les expériences qui ont été faites par votre équipe, Catherine Ferrier, pour essayer de voir comment est-ce que les humains ont pu pénétrer avec des torches que vous avez reconstituées. On va parler de cela plus que des peintures, d'ailleurs, parce qu'on avait déjà fait une émission avec Carole Fritz sur le sujet. Cette grotte, donc, de l'Ardèche, là, elle est datée de combien de temps, en fait? Son histoire géologique nous dit quoi?
Alors, il y a deux histoires. Il y a l'histoire du karst, c'est-à-dire, en gros, l'organisation des vides dans un système hydrologique souterrain qui vont constituer un ensemble de vides souterrains. c'est ce qu'on appelle du karst, et il y a l'histoire de la grotte qui est une évolution secondaire que va connaître le vide une fois qu'il est déconnecté des écoulements. Donc on va s'intéresser souvent, quand on veut essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne un système karstique, aux anciens niveaux de base. Quand le niveau de l'Ardèche était beaucoup plus haut et dépendait lui-même du niveau du Rhône, eh bien, il commandait un niveau d'écoulement dans la masse calcaire, dans lequel tous les écoulements vont s'organiser et vont créer des vides qu'on appelle du karst. Et ça, il y en a encore actuellement qui vit et qui fonctionne et qui s'écoule dans les plus bas niveaux. À partir du moment où l'Ardèche s'incise, à partir du moment où elle creuse son canyon, ce karst se déconnecte à la faveur, et c'est au bénéfice d'un autre karst qui va être plus bas, et la grotte va connaître une évolution qui lui est un petit peu détachée, secondaire, toute seule. Et ça devient un volume souterrain dans lequel des blocs vont s'effondrer, des calcites vont pousser, des phénomènes de corrosion secondaire vont arriver, notamment des biocorrosions avec éventuellement des fréquentations de chauves-souris, et des hommes et des animaux peuvent entrer.
Oui, mais là, donc, vous avez résumé une histoire très très longue, parce que là, on parle sur des millions d'années quand même.
La première phase de karstification reconnue, effectivement, elle est associée aux grandes variations du niveau de base du Rhône. Donc on parle de choses qui démarrent il y a 8 millions d'années, quand on a un peu l'émersion des masses calcaires, le calcaire lui-même ayant plus de 100 millions d'années. Donc il faut d'abord monter les masses en hauteur pour créer le gradient hydraulique qui va permettre de créer les vides souterrains par karstification. Là, on est sur des histoires qui vont se passer en gros entre 6 millions d'années et 2 millions d'années, à peu près. À partir de là, on va vraiment inciser le canyon de l'Ardèche et on va déconnecter la grotte Chauvet. Et là, elle va connaître son évolution pour elle-même, toute seule. Comme d'autres grottes d'ailleurs, d'autres grottes alentour qui connaissent aussi ce type d'évolution.
On verra toute l'histoire parce qu'elle est vraiment intéressante, depuis cette ambiance tropicale au fond qui existait.
Alors ça, c'est la mise en place des calcaires.
À cette époque, il y a très très longtemps, donc 120 millions d'années.
120 millions d'années, au Crétacé.
Jusqu'à la fermeture du détroit de Gibraltar, il y a 6 millions d'années, avec donc une Méditerranée qui va faire quoi? Qui va s'assécher quasiment?
Oui, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout est contrôlé par ce qu'on appelle le niveau de base. Le niveau de base, c'est vraiment l'altitude du réseau hydrographique.
Ouais.
Là, on est en Ardèche, on dépend donc du Rhône. Le Rhône dépend lui-même de la Méditerranée. Effectivement, il se passe quelque chose assez singulier, étonnant, il y a 5,95 millions d'années pour être précis.
Ah oui, ça est précis.
C'est affiné à chaque fois par des chercheurs qui bossent sur la chose. L'Afrique, en gros, pousse vers le nord et Gibraltar se ferme. Il faut savoir que la Méditerranée est en déficit hydrographique permanent, même aujourd'hui. La Méditerranée s'évapore et c'est l'Atlantique qui alimente la Méditerranée avec ces fameux courants très dangereux au détroit de Gibraltar. Si on ferme le bouchon, eh bien, on va évaporer la Méditerranée, ça va prendre un certain temps, et ça va abaisser le niveau de base de plusieurs milliers de mètres. La Méditerranée, elle est à moins 2000, moins 3000.
Et les fleuves aussi qui...
Tous les fleuves bordiers,
comme le Rhône, par exemple.
Le Rhône, le Nil, le Danube, le Pô, vont s'inciser et former des canyons très profonds. À Arles, on considère à Arles que le fleuve est à moins 1000.
Ouais. La grotte Chauvet a longtemps été remplie d'eau aussi, également, avant l'arrivée donc des animaux et des humains.
On va ensuite remonter Oui, alors, il va ensuite se passer un autre phénomène, Gibraltar va se réouvrir.
Ouais.
Et puis là, on est au Pliocène, donc entre 2, 3, 4 millions d'années, et là, le niveau d'eau va remonter, assez rapidement du reste.
Ouais.
Et ça va réennoyer tout le karst qui s'était formé avant. Et donc, ça va régénérer des écoulements. Alors ça, on l'identifie très très bien dans la grotte Chauvet, on l'identifie aussi dans d'autres cavités. Ça a été très bien étudié, notamment à Saint-Marcel d'Ardèche, il y a une quinzaine d'années, par un thésard, Ludovic Mocochin, et qui a donné des résultats assez pertinents, qu'on peut après étendre sur d'autres grottes. Donc, pour comprendre Chauvet, on est obligé d'aller chercher un peu deux, trois autres grottes autour.
Et la grotte Chauvet telle qu'on la connaît aujourd'hui, véritablement, avec la possibilité, donc, pour des animaux ou des humains d'y entrer, ça date de quand exactement?
Au cours du Quaternaire, elle est ouverte, elle devient accessible, c'est-à-dire dans le dernier million d'années. Voilà.
Et donc ces premiers visiteurs vont arriver, c'est ce que nous allons raconter avec vous dans un instant, et puis vous répondrez bien sûr aux messages et questions qui arrivent au sujet de la grotte Chauvet pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Oh, c'est ce qu'il faut jouer sur le patrimoine mondial, et sur le trésor national.
Ah oui, c'est un trésor international, c'est mondial.
Est-ce que vous avez, vous, eu un sentiment plus important en rentrant dans cette grotte que dans d'autres grottes?
Ah oui, ça c'est sûr. Ah ça c'est sûr, hein. J'ai eu une des grandes émotions de ma vie, oui, bien sûr. C'est une des grottes les plus extraordinaires que j'ai jamais vues. En Europe, moi je la classe parmi les trois plus importantes.
L'archéologue Jean Clotte, extrait du documentaire de Guy Padovani, Chauvet, voyage aux origines, à voir ce soir sur France 5. Pour en parler, Catherine Ferrier, géoarchéologue, et Stéphane Jaillet, géomorphologue. Que sait-on, Catherine Ferrier, sur la fréquentation de cette grotte, puisque là, on est arrivé, on a posé le décor géologique de la grotte, et puis maintenant, elle va vivre, elle va être animée par la présence animale, animaux et non humains d'ailleurs. Qui l'a fréquentée d'abord, les animaux?
Les animaux et l'ours. Hein.
C'est, l'ours en particulier.
C'est d'abord l'ours qui a été le premier occupant de cette cavité.
Ouais.
Et il va l'occuper finalement pendant très longtemps, avant la fréquentation humaine, et puis aussi pendant la fréquentation humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est une des rares grottes où on a cette succession...
Alternance quand même.
Alternance.
Ils ne vont pas fréquenter ensemble.
Hein, voilà. Ouais. Ils sont dans les mêmes intervalles de temps, et ils se succèdent dans la cavité. Ouais. On a des greffades d'ours sur les parois avant les représentations pariétales, et on a des greffades d'ours qui affectent les représentations pariétales.
Pourquoi les ours sont autant attirés par la grotte d'ailleurs?
Ils viennent hiverner, ça fait partie de leur cycle biologique, et ça c'est un des grands classiques de l'ours des cavernes, il va dans les cavités pour le repos hivernal. Voilà.
Il y a des ossements d'ours, beaucoup?
Beaucoup d'ossements d'ours.
Des crânes, des
ossements qui sont en surface, mais qui sont aussi les rares petites fouilles qui ont été réalisées montrent qu'il y a aussi des ossements enfouis. Donc le décompte que l'on a de tous ces animaux en surface n'est que ce que l'on voit en surface. Et les crânes avec cette notion de manipulation par les hommes de ces ossements, puisqu'il y a ce fameux crâne qui a été posé sur un bloc dans la salle du crâne.
Donc ça, c'est étonnant. Ça, c'est une mise en scène qui est théâtrale quasiment,
oui,
non
c'est, oui,
on
alors...
voit un bloc de pierre un peu carré, c'est ça, si ma mémoire
est
bonne.
Il est parallélépipédique, ouais. Globalement, mais il émerge.
Posé dessus un crâne d'ours.
Un crâne d'ours.
Ça dit quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, nos ancêtres?
Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un geste qui est très fort.
Ouais.
Ouais, il y a un geste qui est très fort. Il y a cette interaction entre l'animal et l'humain, puisqu'il y a ces gestes vis-à-vis des ossements. Mais l'ours est également représenté sur les parois.
Stéphane Jaillet, ces griffes d'ours dans la roche, c'est quand même très émouvant aussi. Parce que quand on les regarde, j'imagine qu'on est saisi là aussi d'un petit frisson quand même, non?
L'état de conservation est exceptionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que la griffade, elle date d'hier. Tout comme les gestes humains d'ailleurs, qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Il faut dire que la paroi elle-même, elle a une certaine mollesse dans certaines parties de la grotte qui se prête à ce genre de gravure par des ours.
Involontaire, par les humains.
Par des humains et par des ours. Et donc, comme le disait Catherine, le croisement des deux, on arrive à décrypter, les pariétalistes ont beaucoup travaillé là-dessus, permet vraiment de donner de la chronologie et aux œuvres et aux fréquentations animales. Et puis, les datations, évidemment, complètent ce dispositif et montrent qu'effectivement, il y a des fréquentations humaines et animales qui s'alternent. Ouais. Est-ce qu'il y a rencontre?
Évidemment, sûrement, probablement.
On sait pas.
Quand même.
Ouais. On peut penser quand même, l'ours a une éthologie qui fait qu'il va fréquenter la grotte en hiver. C'est pas forcément beaucoup d'individus, mais et certains meurent et restent sur place. Et on peut penser que les hommes vont plutôt éviter la rencontre.
Catherine Ferrier, les humains arrivent quand alors?
Les humains, ils arrivent pour la première fois à l'Aurignacien. Hein, donc on a des dates autour de 37 000 ans. C'est à ce moment-là qu'il y a les premières évidences de la fréquentation humaine.
Par quoi d'ailleurs? C'est quoi les évidences? C'est les peintures ou c'est des ossements? C'est
alors, il n'y a pas d'ossements humains dans la grotte Chauvet.
Aucun.
Dans l'état actuel des connaissances. Et on le sait parce qu'on a pu dater. On date au carbone 14, d'une part les charbons de bois qui sont présents sur les sols, et d'autre part les œuvres pariétales, puisqu'on a la chance à Chauvet qu'elles aient été réalisées avec du charbon, donc elles sont directement datables.
On peut imaginer que les humains qui arrivent là, hommes, femmes et enfants, ils ont tout de suite envie de peindre, de poser leurs mains, de représenter les animaux, ou est-ce que ça peut demander un peu de temps
Alors, ce qu'on sait du comportement humain au paléolithique récent dans les cavités, c'est que, en tout cas, les hommes vont partout. Et ils ont été partout dans la grotte Chauvet, ils ont exploré, il y a une notion d'exploration dans ces cavités. Alors Chauvet c'est très facile hein, d'accès, il n'y a pas de difficultés techniques, mais dans d'autres cavités, alors pas forcément à l'Aurignacien, mais ils ont cherché à explorer la grotte aux limites de leurs capacités techniques et physiques.
Évidemment, lorsqu'ils entrent dans la grotte, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, même s'il y a par exemple des ours qui sont là. Et évidemment, le feu est un outil majeur pour les groupes humains. Les Aurignaciens donc, vont s'installer dans ces grottes, ou devant d'ailleurs l'entrée de la grotte. Ils vont s'aventurer, vous venez de le dire, dans ce labyrinthe. Et avec votre confrère Jean-Claude Leblanc, vous avez mené des expériences qui sont assez fascinantes, qu'on voit d'ailleurs dans le film ce soir, pour comprendre comment les humains de la préhistoire s'éclairaient dans la grotte. Parce que c'est quand même la première chose à avoir. De la lumière.
Tout à fait, parce que, comme on le dit dans le film, l'homme n'est pas équipé biologiquement pour accéder à ce monde souterrain. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'homme va... Alors, c'est pas à l'Aurignacienne, puisqu'on a des évidences paléolithiques moyennes avec la grotte de Bruniquel, entre autres. C'est la première fois que l'homme va investir...
Et la femme.
Les humains.
Les humains.
Les humains vont... grâce à l'usage du feu, investir un milieu qui ne leur est pas destiné. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Bon. Et donc, au paléolithique récent et à l'Aurignacien, on voit ce phénomène se produire. Donc, le feu, il est indispensable. La maîtrise du feu, elle est acquise à l'Aurignacien. Donc, on connaît la façon dont les hommes préhistoriques parcouraient les grottes et pouvaient pratiquer des activités à l'intérieur. Dispositif mobile d'éclairage, les torches. Les lampes à graisse, on n'en a pas d'évidence à Chauvet, mais les torches. Et puis, il y a également des foyers fixes dont on pourra reparler, parce qu'ils posent beaucoup de questions.
On imagine ces groupes humains, ils partent avec des torches.
Oui.
Vous avez donc reproduit expérimentalement cette idée en fabriquant la torche à l'entrée de la grotte, avec les essences d'arbres ou de végétaux, en tout cas, nécessaires.
Tout à fait, parce qu'on connaît les essences végétales qui ont été utilisées à Chauvet. Il s'agit du pin. Ce sont nos collègues anthracologues qui ont fourni cette information. Donc on nous voit cueillir du bois de pin pour fabriquer ces torches. Alors, on se base sur des données archéologiques. Ce sont les essences, le pin sylvestre ou pin noir, on ne peut pas aller dans ce détail. Et puis, on a aussi des torches qui ont été retrouvées exceptionnellement, pas forcément au paléolithique, qui nous donne des indications sur ce que pouvait être une torche
Ça fait quelle taille quand on ose l'audace de rentrer dans la grotte à peu près? On a quoi comme torche dans la main?
Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire.
Ben oui.
Et de la durée de votre présence sous terre. C'est-à-dire qu'en fait, très certainement, c'était des gens qui avaient suffisamment de maîtrise de la question pour adapter la torche dans dans son diamètre et dans sa longueur à l'objectif qui leur était fixé. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire une incursion courte ou est-ce que je vais faire une incursion longue? Le diamètre de la torche permet de régler la puissance de l'éclairage et la longueur, la durée.
Et donc, ils pouvaient rentrer avec des torches qui leur permettaient de...
Absolument.
Combien de temps?
Alors, par exemple, les torches qu'on voit dans le film, ça a duré une durée de 3/4 d'heure d'éclairage, à peu près 1 heure.
C'est pas mal quand même, torche.
Tout à fait. Ouais. Et vous voyez, c'est très maniable, mais c'est très très efficace.
Et donc
très
on pouvait partir avec plusieurs torches.
Absolument.
Stéphane Jaillet.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est le projet de préparation. C'est-à-dire effectivement préparer ces torches pour mener cette incursion.
Ouais.
Et quand on retrouve les traces de mouchage qui sont réparties dans la grotte, et c'est le cas dans d'autres grottes aussi où ça a été analysé, on s'aperçoit que la démarche, elle est vraiment une démarche d'exploration.
C'est quoi le mouchage exactement?
Le mouchage, c'est la trace de torche pour raviver la torche,
oui,
pour enlever un peu ses cendres.
Donc on frotte contre la paroi.
Voilà.
Et donc on a retrouvé les traces en fait.
Et les charbons au sol.
Les charbons.
Alors les traces de mouchage dans la grotte Chauvet, ceux qui ont été datés sont de la période du Gravettien. Alors, on n'a pas de traces de mouchage à l'Aurignacien, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas utilisé des torches, parce qu'il y a d'autres manières de moucher des torches, frotter sur le sol, tapoter avec une branche, l'extrémité des torches, etc. Donc, c'est le mode d'éclairage mobile qui est le plus adapté à l'exploration, la torche. Ouais.
On va parler des feux aussi à l'intérieur dans un instant, ce sera l'autre partie de cette discussion. Et puis, nous attendons vos questions et vos messages pour nos invités, on y répond dans quelques minutes.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
À chaque fois que je suis rentré dans cette salle, j'ai eu une émotion très forte, un ressenti, les artistes aurignaciens cherchaient à nous raconter une histoire. Dans cette salle du fond, ces compositions sont mises en scène. Mais ce qui est exceptionnel également, c'est la présence de certains animaux avec des pattes multiples ou des têtes multiples. Peut-être pour décomposer le mouvement en plusieurs images. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement moderne, d'une modernité folle, qui fait que peut-être à Chauvet, on est carrément aux origines du cinéma.
Extrait de ce documentaire Chauvet Voyage aux origines, ce soir sur France 5, nos invités Catherine Ferrier et Stéphane Jaillet. On vous verra d'ailleurs évidemment dans ce documentaire ce soir, où on ressent beaucoup d'émotions évidemment parce qu'on a la chance de pénétrer. Ça a été aussi une des chances de cette équipe de télévision emmenée par Guy Padovani, c'est de pouvoir aller dans la grotte alors qu'elle est fermée et que même pour les scientifiques, Stéphane Jaillet, on n'y va pas comme ça tout au long de l'année et tous les jours, hein.
Non, les visites sont extrêmement contraintes et c'est normal. Elles sont contraintes dans le temps. Elles sont aussi contraintes dans le cheminement. Il y a un réseau de passerelles qui permet de parcourir quasiment la totalité de la grotte. Ouais. Et donc, on est contraint dans ces passerelles et c'est tout à fait normal. Et la seconde contrainte qui est vraiment majeure, c'est on ne touche pas. On ne touche pas, on fait toutes les investigations ont été faites en non-invasif.
Ça ce qui doit être très frustrant quand même,
extrêmement frustrant, surtout pour les géosciences où on est habitué à toucher le matériau, à gratter un peu les sols et tout ça. Mais après, c'est un exercice intellectuel qui est très riche, qui fait qu'à un moment donné, on déploie des méthodes, on invente même des méthodes qui n'ont pas été déployées sur d'autres sites. Et c'est la grotte Chauvet, en ce sens, elle a permis aussi le développement de ces méthodes. Mmh. Je pense par exemple à l'analyse 3D. Qui a démarré très très précocement dans la grotte Chauvet, qui se poursuit. La nouvelle équipe qui est en place aujourd'hui retravaille sur des méthodologies 3D avec des échelles beaucoup plus fines et permet de sortir des résultats sans rien toucher.
Mais ça veut dire, Catherine Ferrier, qu'on ne pourra pas faire de fouilles nouvelles dans cette grotte Chauvet, donc ça veut dire qu'il y a probablement des choses très intéressantes que vous ne pourrez jamais découvrir ?
Tout à fait. Alors, sous réserve qu'il y ait des autorisations de la part du ministère de la Culture, il y a eu quelques fouilles qui ont été réalisées dans la grotte Chauvet, dans le secteur de l'entrée, à l'entrée de la galerie des Mégacéros, plus à l'intérieur, mais d'extension extrêmement limitée. Donc, même si c'est très limité, ça nous donne des informations. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un souci de conservation effectivement qui limite les investigations scientifiques, mais ça peut se justifier. Enfin, voilà, bon.
On parlait tout à l'heure de vos reconstitutions expérimentales de torches, hein, pour essayer de comprendre comment les humains de l'époque étaient entrés, comment ils pouvaient s'éclairer pendant un temps assez long. Il faut préciser que ces expériences, vous ne les menez pas à l'intérieur de la grotte Chauvet, justement. Hein, parce que...
C'est important à souligner. Ouais. Même pas d'ailleurs dans des grottes. Hein, on a fait ces expérimentations, bien sûr avec les torches, mais aussi autour des foyers des feux qui ont été réalisés dans la galerie des Mégacéros. Même pas dans une grotte, parce que ça nous semblait aussi invasif vis-à-vis d'un milieu naturel qui doit être protégée. Donc nous avons fait ces expérimentations dans une carrière souterraine de pierre calcaire qui se trouve à proximité de Bordeaux.
Ces feux, donc, faits à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en dire, puisque vous avez étudié la question aussi?
Oui, alors on a étudié cette question d'abord en faisant un inventaire complet des traces de feu dans la grotte, en recueillant des informations sur l'intensité des chauffes, sur les surfaces qui étaient affectées, leur localisation. On a quand même des parois qui ont chauffé fait à plus de 400 degrés à des hauteurs de 3 mètres. Donc ça
donne du beau feu.
Une idée voilà, de l'intensité des feux. Ils ont été datés par thermoluminescence de la période de l'Aurignacien. Donc on sait que c'est bien les Aurignaciens qui les ont faits.
Et puis, donc ce sont des feux volontaires.
Ce sont des feux volontaires, tout à fait. C'est un apport de combustible à l'intérieur de la grotte. Et ce combustible, c'est du pain, comme on a déjà dit. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait ce travail dans la cavité, on a voulu aller plus loin. Et donc, on a développé des programmes de recherche en dehors de la grotte, dans un milieu souterrain artificiel que sont les carrières. D'abord, pour essayer de reproduire ces feux concrètement, mesurer un certain nombre de paramètres physiques, parce que, d'abord, comment on arrive à chauffer des parois qui sont à 2 mètres de hauteur, c'est une question de disposition du combustible. Il faut disposer votre combustible en tipi. Pour chauffer haut, il faut des flammes hautes. Oui. Et pour obtenir des flammes hautes, il faut du combustible, des branches qui soient disposées en tipi. Ensuite, on a mesuré on a fait de la métrologie, c'est-à-dire on a mesuré des paramètres physiques, parce qu'évidemment, on se demande quelles sont les températures de ces feux, quelles sont les fumées dégagées, quel sens vont ces fumées, quelle est la quantité de CO2 et de CO présente dans ces fumées, c'est-à-dire la toxicité, la dangerosité de ces feux. Alors ça, c'était pas suffisant pour répondre à nos questions. On a fait donc un travail, c'est Fabien Salmon qui l'a fait dans le cadre de sa thèse.
Qu'est-ce qu'il nous raconte ces feux? Pourquoi ils ont été faits? On le sait, ça ou pas? Ça a été pour peindre, ça a été pour manger.
À partir du résultat de ces modélisations de feux et de ces simulations numériques du feu, on a pu proposer des interprétations. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que des feux comme ça, c'est dans la galerie de Mégacéros, c'est une couche chaude dans la partie haute de la galerie et une couche froide. Une couche chaude, c'est-à-dire qu'on est là à 100 degrés, à plus de 100 degrés, avec des taux de CO2 qui sont dangereux. La limite entre cette couche chaude et cette couche froide, elle se situe à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 de hauteur. Ce qui veut dire que lorsque un feu était réalisé, les hommes ne pouvaient pas se tenir debout et pouvaient à peine s'approcher accroupis du feu. Ça veut donc dire que ces feux n'étaient pas réalisés pour éclairer lorsqu'on dessinait sur les parois ou voir ce qui avait été dessiné sur les parois.
Et donc,
ils produisent de la lumière, une lumière qui en fait, vue comme on n'était pas là pour être à proximité de feu, à distance, et vous parliez de mise en scène tout à l'heure, et pour une mise en scène des volumes dans lesquels une mise en scène visuelle des volumes dans lesquels se trouvaient les œuvres pariétales.
Mais ils allaient au spectacle, en fait, non? C'était une façon d'animer leur grotte pour qu'il se passe quelque chose, non?
C'est intéressant parce que quand on a fait l'exposition à la Cité des Sciences, y a la personne avec qui on a travaillé nous a dit « c'est un son et lumière ». C'était un son et lumière.
Oui.
Alors c'est un peu ça l'idée, lumière, mais aussi son.
Ouais.
Pourquoi son? Parce que ces feux intenses, ils produisent du son. Et les feux les plus intenses, ils ont été réalisés dans une zone de la grotte, de la galerie qui est la plus étroite. Donc, j'ai parlé de la stratification de l'air, mais il y a aussi un phénomène de convection, donc de circulation de l'air qui va être accéléré au niveau où la grotte est la plus étroite. Donc, peut-être ces feux avec un son aussi qui était recherché.
Tout ça est fascinant, Stéphane Jaillet. À quel moment l'entrée de la grotte s'est refermée? Parce que, bah oui, il y a une fin à cette histoire quand même.
Alors, c'est pas une fin, c'est la fin pour la fréquentation humaine, c'est la fin pour la fréquentation animale. Effectivement, la grotte va se refermer par des écroulements qui vont se situer à l'extérieur et qui vont affecter la zone d'entrée.
Ouais.
On a travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années avec un thésard, avec un doctorant, Benjamin Sadier, et on a pu à la fois montrer ces trois phases d'écroulement et les dater assez finement avec des collègues d'Aix-en-Provence. Et donc, ça se passe entre 29 000 ans pour le premier écroulement, mais on a des fréquentations humaines et animales après. Mmh. Et le dernier écroulement, celui qui clôt définitivement la cavité, est à 21 500 ans.
Donc, elle est restée fermée pendant 21 500 ans.
Et elle n'a pas bougé. Voilà.
Et c'était une très bonne chose, d'ailleurs.
Alors, c'était une très bonne chose pour la conservation, mais elle va quand même connaître une évolution postérieure. C'est-à-dire qu'elle va continuer à vivre en tant que grotte. Les calcites vont se mettre en place. Il y a plein de choses qui vont continuer à se passer, mais qui sont postérieures et qui vont napper à la fois les fréquentations, les traces d'ours et les œuvres d'art.
Allez, on va passer aux questions pour vous, car elles sont nombreuses. Pierre nous demande quelles sont les menaces aujourd'hui pour la grotte Chauvet concernant évidemment l'environnement et le réchauffement climatique. Stéphane Jaillet, qu'est-ce qu'on peut en dire alors aujourd'hui?
Alors la grotte Chauvet, elle continue à avoir son existence propre avec des infiltrations d'eau qui arrivent du plateau.
Ouais.
Il pleut sur le plateau, l'eau s'infiltre et effectivement rejoint la grotte et la traverse globalement.
Mmh.
Et donc, il y a des précipitations de calcite. Donc évidemment, tout ce qui se passe en surface, le sol, la végétation, va conditionner la façon dont l'écoulement va se passer. Si on réchauffe, on va effectivement, possiblement, changer la nature de la végétation, changer la nature, mais aussi le taux d'humidité des sols. Si on change le régime aussi des précipitations en surface, on va changer ce qui va se passer sous
terre. Est-ce qu'à terme, ça veut dire la disparition des peintures?
Pas forcément. Ce qu'il faut, c'est l'étudier. Voilà. Il y a un tel enjeu de conservation sur ce site qu'il faut étudier la chose plus finement.
Nathalie nous dit au sujet de ce crâne d'ours posé sur un rocher parallépipédique, il ne s'agit peut-être que d'une mère de famille qui en avait marre que ses enfants jouent avec et qui a donc posé le crâne pour le ranger. Catherine Ferrier.
Oui, bah c'est bien aussi de voir cette grotte comme une grotte vivante.
Ouais.
On n'a pas, contrairement à d'autres sites ornés, on n'a pas à chauffer d'évidence de la présence d'enfants dans la grotte, si ce n'est, et c'est ce que montre Valérie Ferruglio dans le film, une empreinte de main, enfin une trace de main au craie qui appartiendrait à celle d'un adolescent.
Guillaume nous dit, j'ai entendu dire que le crâne d'ours posé sur la pierre l'avait été par Monsieur Chauvet en buvant une coupe de champagne. C'est quoi ça? C'est une fake news? Bah,
c'est une fake news, c'est une légende urbaine, comme on dit.
C'est vrai.
Mais je crois que nos inventeurs étaient dans un tel niveau de respect de la grotte qu'ils venaient de découvrir qu'il n'y a pas besoin d'aller convoquer ce genre de choses. C'est déjà exceptionnel en soi, pourquoi aller rajouter de l'exceptionnel à l'exceptionnel?
Catherine Ferrier, Erwan nous dit, quelle était la qualité de l'air dans une grotte? Est-ce qu'il y avait des risques d'intoxication? Vous nous laissiez entendre un petit peu quand même tout
oui,
à l'heure.
Oui, alors les fumées qui en fait se dégageaient des feux dans la galerie des Mégacéros étaient toxiques pour quelqu'un qui était à proximité. Mais ensuite, ces fumées se dégageaient dans la salle hilaire et c'est un immense volume qui... Et ça se dissipait dans cet immense volume.
Oui, ben ça c'était des questions aussi de Corinne. Comment fait-on pour évacuer les fumées des torches dans les grottes? Quid de la fumée de son extraction éventuelle? Ne dit-on pas qu'elle est cancérigène?
Alors, en fait, c'est la puissance de ces foyers permettait la convection, donc l'évacuation, la circulation de l'air et l'évacuation des fumées dans les grands espaces.
Julie demande, est-ce que les contemporains des peintures des grottes ont vécu des événements géologiques importants du massif central, Stéphane Jaillet?
Oui, il y a un travail qui a été fait il y a moins de 10 ans, effectivement, sur le volcanisme du Bas-Vivarais, et qui a montré qu'il y avait effectivement une activité volcanique visible, de type explosif et fusif, qui a affecté, alors j'ai plus la date en tête, autour de 35 000 ans, je crois, de mémoire, ces travaux de Sébastien Nomade, au LSCE. Et donc, il est possible qu'effectivement, ils aient vu ça, et il y a certaines représentations dans la grotte qui laisseraient entendre que peut-être, ça pourrait être ce type de représentation volcanique. C'est discuté, mais c'est une bonne idée.
Jérôme demande, quelle est l'origine du massif calcaire d'Ardèche?
Alors, le calcaire, c'est donc une roche qui se sédimente dans une mer peu profonde. Là, c'est des calcaires coralliens, donc c'est une ambiance de récif type la Grande Barrière d'Australie. Il faut imaginer ce type d'ambiance. Mais là, on est au tout début de l'histoire. On est à 120 millions d'années au Crétacé. Il y a très longtemps, avant que les Pyrénées existent, avant même que les Alpes existent.
Et puis, dernier message d'Alain, les peintures de la grotte Chauvet sont deux fois plus anciennes que celles de Lascaux. Je ne peux m'empêcher de penser que l'art de la peinture rupestre était transmis de génération en génération et que d'une certaine façon, ces lieux étaient connus et aussi visités par ces premiers artistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Ferrier?
C'est évident que beaucoup de grottes ornées ont été fréquentées à différents moments du paléolithique. Donc, bien sûr qu'il y avait des connaissances communes qui permettaient à ces groupes humains de reconnaître ce qui avait été fait avant eux et certainement de perpétuer ces traditions.
Et d'en être ému également, comme vous l'avez été. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Catherine Ferrier et Stéphane Jaillet. Donc je renvoie sur ce soir France 5, 21h, Chauvet voyage aux origines, ce documentaire inédit de Guy Padovani. À voir donc. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré.
Merci.